Europe 1. Jeanne d'Arc, la sainte patronne de la France, qu'on appelle aussi la Pucelle d'Orléans, est presque un mythe. Elle est à la fois célèbre et nimbée de mystère. Cette paysanne lorraine entend des voix qui la poussent à prendre les armes pour faire couronner le roi Charles VII. Le trône de France est alors revendiqué par les Anglais et la guerre de Cent Ans menace l'existence même du royaume. Capturée et trahie, elle est jugée pour sorcellerie, manière de discréditer le roi de France en montrant qu'il est soutenu par les forces infernales. Mais au moment même où les flammes la dévorent, les témoins de son exécution se repentent déjà. Et si la Pucelle était une sainte ? Je suis Virginie Giraud et nous allons plonger ensemble au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Le procès de Jeanne d'Arc. Depuis l'aube de ce 30 mai de l'an de grâce 1431, la foule se rassemble au pied d'un bûcher qui s'élève sur la place du marché de Rouen. Dans la cité normande, occupée par les Anglais, personne ne veut rater le spectacle. Ce n'est pas tous les jours qu'on brûle une sorcière, et pas n'importe laquelle, celle-là même dont tout le monde parle, celle-là même qui a fait couronner le roi Charles il y a à peine 2 ans. À 9h du matin, on se bouscule déjà sur la place quand arrive Jeanne debout sur la charrette des condamnés. Elle porte une longue tunique blanche. Des hommes d'armes tentent de calmer les badauds qui ne doivent pas troubler l'exécution. Bientôt, tous se taisent. Jeanne descend de la charrette et monte lentement vers le bûcher. Un prêtre l'entend en confession. Les membres du tribunal et les Anglais qui l'ont condamné ont pris place sur une estrade. L'évêque Cochon se lève dans le silence et lit la sentence. Le bourreau attache Jeanne au poteau, les épaules, les hanches, les jambes. Son vêtement rouge sang jure avec celui si blanc de Jeanne. Puis, il met le feu au fagot et il s'éloigne. Aussitôt, les flammes crépitent et une dense fumée enveloppe le corps de Jeanne. Alors qu'on l'entend crier le nom de Jésus, l'évêque Cochon et ses sbires quittent le spectacle. Pas question de supporter jusqu'au bout le supplice de la petite Lorraine, d'autant plus que la foule est en pleurs. Les hommes d'armes maintiennent les spectateurs loin du corps qui se consume doucement, puis les cendres sont dispersées dans la scène afin que personne ne transforme ses restes en reliques. La tristesse accable Rouen endeuillé. Ils ont le sentiment confus de s'être trompés. La Pucelle ne pouvait pas être une sorcière. Il y avait, pendant qu'elle brûlait, une atmosphère étrange, divine. Seuls les Anglais se réjouissent. Ils en ont enfin fini avec cette Pucelle de cauchemar. Mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Jeanne d'Arc naît à Domrémy, probablement en janvier 1412, dans une famille de paysans lorrains aisés. Comme tous les enfants de l'époque, elle travaille avec ses parents à la ferme. Elle est pieuse et obéissante. Pour autant, elle est très touchée par les ravages des guerres qui ensanglantent son pays. Depuis 1337, le royaume de France est en guerre contre l'Angleterre. Le roi d'Angleterre, descendant lointain d'Henri Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, revendique le trône de France et occupe même une bonne partie du royaume. Chaque dimanche à la messe, Jeanne prie pour que Charles VI, le vrai roi de France, boute les Anglois hors du royaume. Mais on dit qu'il est fou, incapable de lever une armée et de se battre. Elle n'a que 13 ans quand elle entend les voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite lui parler au nom de Dieu. Elle doit libérer le royaume des envahisseurs étrangers et placer sur le trône le dauphin Charles. De nos jours, le fait d'entendre des voix nous évoque une pathologie mentale ou une manipulation. Mais le rapport au divin est très différent du nôtre au XVe siècle. À cette époque, ça ne semble pas fou du tout d'entendre des voix. À l'issue d'une incroyable épopée militaire qui n'est pas au cœur de notre récit aujourd'hui, Jeanne, qui a tout juste 17 ans, parvient à faire couronner le dauphin à Reims en juillet 1429. Oui, Jeanne était une chef de guerre. Elle était respectée par ses hommes et aucun n'aurait osé un geste déplacé sur elle. Il l'aurait suivie au bout du monde, jusqu'à la victoire finale sur les Anglais. Mais la chance militaire abandonne Jeanne après le sacre. Elle échoue à Paris où elle est blessée. Et le 23 mai 1430, au siège de Compiègne, Jeanne est capturée. Alors je fais ici une petite pause, parce qu'il faut bien comprendre qu'elle n'est pas capturée par les Anglais directement, mais par leurs alliés, les Bourguignons. En ce début de XVe siècle, deux branches cadettes de la famille des Valois se battent pour le pouvoir. Il y a d'un côté les Armagnacs, et de l'autre, les Bourguignons. Leur rivalité aboutit à une guerre civile alors même que la guerre contre les Anglais dévaste le pays. Quelques années avant l'épopée libératrice de Jeanne, les Bourguignons ont choisi de se ranger du côté des Anglais et de reconnaître Henri VI comme roi de France. Vous imaginez bien que Jeanne les déteste. À ses yeux, ces Bourguignons sont des traîtres. Durant des mois, les Bourguignons qui détiennent Jeanne et les Anglais se livrent à des tractations sur le sort de la jeune fille. Elle essaie plusieurs fois de s'évader. Le roi de France, quant à lui, ne semble pas se préoccuper de son héroïne. Finalement, Jeanne est vendue aux Anglais pour 10 000 livres tournois, une très belle somme puisque ça ferait plus d'un million d'euros aujourd'hui. Les Anglais la transfèrent à Rouen, la cité normande qu'ils contrôlent encore. C'est là qu'elle va être jugée. Jeanne est enfermée dans l'ancien château du roi Philippe Auguste, qui est alors la demeure du comte de Warwick, le gouverneur d'Henri VI. C'est un château médiéval défensif, très imposant avec ses 10 tours, ses murailles et ses remparts. En passant le pont-levis du château, en cette veille de Noël 1430, en voyant ses gardes cuirassés, Jeanne ne peut s'empêcher de frissonner, elle qui désormais ne porte plus d'armure. Mais elle a confiance. Elle est l'envoyée de Dieu et du roi. Il ne peut rien lui arriver. Jeanne est mise au fer dans une cellule immonde et humide. Elle n'a qu'une paillasse pour s'étendre. Et il fait si froid. Par une minuscule meurtrière, elle ne voit de la campagne normande que le brouillard qui la recouvre à perte de vue. Elle est seule et sans aucune défense dans cette cellule étroitement gardée. Ses geôliers ne cessent de l'épier, jour et nuit. Ils se moquent d'elle et l'insultent. On dit que certains tentent de la violer sans y parvenir. Beaucoup d'hommes qui l'ont connue racontent qu'elle avait quelque chose de presque surnaturel qui les tenait à distance. Et puis les Anglais la craignent aussi. Pour eux, c'est une sorcière, une créature infernale. Alors on va faire une petite pause ici dans notre récit pour répondre à une question. Pourquoi cette paysanne devenue chevalier est-elle si importante aux yeux des Anglais ? Pourquoi l'acheter si cher, puis la juger ? Pourquoi ne pas tout simplement la laisser croupir dans sa cellule jusqu'à ce que mort s'en suive ? Eh bien parce que la pucelle est un enjeu politique important pour les Anglais. Un procès contre la championne de Charles VII est une aubaine. Vous allez comprendre pourquoi. Les Anglais ne choisissent pas de faire juger Jeanne par une cour laïque comme ça devrait être le cas pour une prisonnière de guerre. Ils optent pour une cour ecclésiastique qui devra démontrer qu'elle est une sorcière, donc une hérétique. Depuis la bulle du pape Jean XXII en 1326, les sorciers et sorcières sont assimilés à des hérétiques. Le calcul des Anglais est le suivant. Si Jeanne est déclarée comme telle, le roi Charles VII, qui a été sacré grâce à elle, sera discrédité. Le procès de Jeanne s'ouvre le 9 janvier 1431 devant une assemblée de religieux et de théologiens. C'est un procès ecclésiastique traditionnel qui suit les règles de l'Inquisition. Mais plusieurs membres du tribunal sont choisis parmi les partisans du roi d'Angleterre. Le président du tribunal a notamment un pouvoir très important. Il s'agit de Pierre Cochon, évêque et comte de Beauvais, tout acquis à la cause des Anglais. L'évêque Cochon est un individu étrange. Est-il convaincu que Jeanne est une sorcière ? Il dit que sa mission est de la sauver pour que Dieu lui pardonne. Mais est-ce qu'il y croit lui-même ? En effet, le but premier d'un procès d'inquisition n'est pas de mettre à mort. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une condamnation à mort signifierait que le procès n'est pas parvenu à faire entendre raison à l'accusé qui s'obstine dans l'erreur. Ce qu'il faut, c'est que Jeanne reconnaisse ses fautes et rentre dans le giron de l'Église. Et il y a du travail, car Jeanne est déclarée, je cite, « sorcière, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice des malins esprits, conjuratrice, superstitieuse, adonnée aux arts magiques, malpensante dans la foi catholique, sacrilège, idolâtre, apostate, maudite et malfaisante. La première phase du procès permet de trouver des chefs d'accusation. Jeanne est accusée d'être sortie de sa condition de femme en s'habillant en homme, ce qui est interdit. Elle est aussi sortie de sa condition de chrétienne obéissante. Elle prétend être en contact direct avec Dieu, ce qui est absolument intolérable pour l'Église qui se veut l'intermédiaire entre Dieu et la communauté des croyants. Du 21 février au 3 mars 1431, les premiers interrogatoires de Jeanne ont lieu en public. La jeune fille, qui ne connaît pas le latin, est interrogée en français. Imaginez le tableau. D'un côté, une quarantaine de juges et assesseurs, des théologiens pour la plupart, et de l'autre, Jeanne d'Arc, 19 ans, paysanne, probablement illettrée. Elle est seule, sans avocat, face à ses spécialistes du droit. Elle se tient droite, sans baisser les yeux, les pieds entravés par des chaînes. Elle porte encore des habits masculins. Elle a les cheveux courts, taillés en rond, selon une coupe masculine en vogue à l'époque. C'est ce qu'on appelle la coupe au bol aujourd'hui. Dans la chapelle royale du château de Rouen, elle est seule face à tous ces hommes savants, cultivés et intelligents. Et pourtant, ils la craignent pour la plupart. Ils la craignent parce qu'ils ne comprennent pas comment elle a pu faire ce qu'elle a fait. Faire sacrer le roi, diriger des hommes de guerre, gagner des batailles pour bouter les Anglais hors de France. C'est impossible qu'une jeune paysanne accomplisse de tels actes. C'est surnaturel, donc. C'est l'œuvre de Dieu. Ou du diable. Et beaucoup penchent pour le diable. Jeanne est une sorcière, c'est évident pour ces messieurs qui lui demandent même où elle cache sa mandragore. C'est une plante très utile en magie noire, dont les racines peuvent évoquer la forme d'un bonhomme, enfin avec un petit peu d'imagination. L'évêque Cochon lui demande de jurer, les deux mains sur les évangiles, qu'elle répondra la vérité à toutes les questions qu'on lui posera. Jeanne répond qu'à certaines choses, elle ne répondra pas. L'évêque insiste. Alors la jeune femme promet qu'elle répondra à tout, mais qu'elle ne dira rien sur les voix qu'elle a entendues et rien non plus sur sa mission divine dont elle n'a parlé qu'au roi Charles VII. Pourtant, au fil du procès, elle va en dire beaucoup, et même de plus en plus sur ses voix. Une petite précision au sujet de ses voix. Au XVe siècle, personne ne met en doute le fait qu'elle les ait entendues. Ce qui pose problème à l'époque, c'est leur provenance. Jeanne affirme qu'elles expriment la volonté divine. Mais ses accusateurs pensent qu'elles émanent du diable. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous en conviendrez. Pour résumer, tous ces messieurs qui font face à Jeanne la détestent. Elle est sortie de sa condition de femme, de paysanne, elle prétend être envoyée par Dieu et maintenant, elle leur tient tête. Certains sont même fous de rage. L'un d'entre eux, un certain Jean Massier, a permis à Jeanne de s'agenouiller dans une chapelle pour prier. C'est plus que ce que le théologien Jean d'Estivet peut supporter. Il empoigne Massier par le col en lui hurlant qu'il n'a pas à laisser cette putain excommuniée entrer dans une église. Que si jamais il recommence, il le fera enfermer dans une tour d'où il ne verra ni la lune ni le soleil. Jeanne est-elle impressionnée par ces hommes de Dieu qui la jugent ? Pas du tout. Elle répond ce qu'elle a toujours répondu et ne varie jamais. Elle est sûre d'elle. Et elle affirme, je cite, « Je sais que mon roi gagnera le royaume de France. Je le sais aussi bien que vous êtes devant moi, siégeant au tribunal. » Elle menace même ces messieurs qui doivent se garder de mal la juger. Sinon, ils auront à rendre des comptes à Dieu. Jeanne est une force de la nature qui a guerroyé par tous les temps. Pourtant, dans ce château insalubre, elle tombe malade. Les Anglais font venir le médecin. Ils ne veulent pour rien au monde qu'elle meure de mort naturelle. Ils l'ont payée trop cher pour ça. Ils veulent qu'elle soit reconnue hérétique et finisse sur le bûcher. Il faut donc la soigner, et vite. Le procès se poursuit et les juges demandent à Jeanne de revenir encore sur ses affirmations, mais elle refuse. Elle refuse notamment d'affirmer que ses voix ne sont que les fruits de son imagination. Elle prétend même avec insolence que sur le bûcher, elle n'abjurera pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'évêque de Beauvais décide de passer à la vitesse supérieure. Il recourt à l'acte de foi. Jeanne doit désormais reconnaître solennellement ses erreurs en public et elle aura la vie sauve. Dans le cas contraire, elle périra sur le bûcher. Le 24 mai 1431, on l'emmène au cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen pour abjurer. Ce qui se passe alors n'est pas très clair. Mais on sait que l'évêque Cochon a bien préparé la scène. On conduit Jeanne près du bâtiment où l'on entasse les ossements retirés de la fosse commune. C'est un lieu absolument sinistre. Les juges sont présents ainsi que de nombreux ecclésiastiques normands. Il y a aussi des représentants de l'Université de Paris, de hauts dignitaires du pouvoir anglais comme l'évêque de Winchester et celui de Norwich. Il y a même William Hainwick, le secrétaire privé du jeune roi d'Angleterre. Jeanne, un cierge à la main, se tient tête baissée et pieds nus. On lui rappelle ses torts, on lui demande de rentrer dans le sein de l'Église, ce à quoi elle répond, comme elle l'a toujours fait, qu'elle s'en remet à l'autorité du pape. « Mais on va pas déranger le pape pour ça ! Abjure, sorcière, et il en sera fini de tes tourments !» C'est mal connaître Jeanne d'Arc. Non, elle n'abjurera pas. Alors on commence à lui lire la sentence. Elle sera brûlée le jour même sur la place du marché. Jeanne écoute, les yeux baissés, et tout à coup elle lève la tête. Elle affirme qu'elle accepte de reconnaître comme juste tout ce que l'Église et ses juges veulent qu'elle croie juste. Elle le reconnaît désormais. Elle n'aurait pas dû soutenir qu'elle a entendu des voix. C'est promis, elle ne le redira pas. Alors, on ne sait pas pourquoi elle abjure ainsi au dernier moment. Pour garder la vie sauve, peut-être. Toujours est-il que Jeanne accepte de reconnaître l'autorité de l'Église. Elle accepte aussi de porter désormais des vêtements féminins. Et elle signe d'une croix son abjuration puisqu'elle ne sait pas écrire. Grâce à ce revirement inattendu, elle sauve sa tête. Elle est seulement condamnée à la prison à perpétuité. Seuls les Anglais sont furieux puisqu'ils voient leur proie leur échapper. Mais dès le 28 mai, Jeanne porte à nouveau des vêtements masculins. Personne ne sait pourquoi ni qui les lui a fournis. Pour l'Église, c'est une rébellion ouverte. Jeanne est déclarée relapse, c'est-à-dire qu'elle retombe dans l'erreur. Un deuxième procès s'ouvre aussitôt. Ses bourreaux n'attendaient que ça. Dès le 29 mai, elle est reconnue idolâtre, schismatique, apostate, menteuse, devineresse, hérétique et relapse. Jeanne est seule cette fois, abandonnée de tous. Le roi de France Charles VII n'intervient pas, le pape non plus. Aucune insurrection populaire n'éclate pour empêcher l'inéluctable. Elle est condamnée le 30 mai et elle est aussitôt brûlée vive en place publique. Ses cendres sont dispersées dans la Seine. 18 ans passent. Après plus de 30 ans d'occupation anglaise, la ville de Rouen est libérée par le roi de France Charles VII. Et dès 1450, il demande une enquête pour restaurer la bonne renommée de Jeanne. Le roi veut faire annuler le procès de 1431. Il veut faire disparaître le soupçon d'hérésie qui plane sur Jeanne, car c'est à elle qu'il doit son sacre. Pour Charles VII, tant que Jeanne est considérée comme hérétique, sa légitimité peut être contestée. Mais jamais dans toute l'histoire de l'Inquisition, un de ces jugements n'a été remis en cause. Seul le pape peut annuler un verdict d'Inquisition et réhabiliter Jeanne. On sollicite alors le pape Calixte III qui, en 1455, ordonne un procès en nullité. Ce procès est confié à nouveau à des hommes d'Église, mais pas les mêmes qu'en 1431. Ceux-là sont des proches du pouvoir royal français. L'accusée étant morte, de même que l'évêque Cochon, il faut trouver de nouveaux témoins. Ce sont pour beaucoup des juges qui ont siégé au cours du premier procès. Par exemple, il y a Thomas de Courcelles qui, à l'époque, a voté pour qu'on torture Jeanne, ce qui n'a pas eu lieu, soit dit en passant. Curieusement, de Courcelles ne se souvient de rien. Il a oublié. Il ne sait plus. Tous portent Jeanne au nu et affirment que ce qui est arrivé, c'est à cause des Anglais. C'est facile à présent qu'ils ont été chassés. Pour rétablir la réputation de Jeanne, des enquêteurs se rendent à Domrémy, son village natal, et en divers endroits où elle est passée, comme à Orléans et à Paris. On demande aux gens qui l'ont côtoyée ce qu'ils pensent d'elle, et tous affirment que c'était une personne pieuse, moralement irréprochable, aimant Dieu et son roi. Le 7 juillet 1456, à Rouen, la sentence qui a condamné Jeanne au bûcher est donc annulée. Elle est publiquement déchirée et la réhabilitation est proclamée sur la place du marché, à l'endroit même de son supplice. Alors, l'affaire Jeanne d'Arc est-elle terminée pour autant ? Faisons un bond de 4 siècles dans le temps. Au XIXe siècle, on aime beaucoup le Moyen-Âge. À l'époque, dans la peinture et la littérature notamment, on imagine un Moyen-Âge obscur, fait de misère, de violence et d'injustice. La France, qui élabore alors son roman national, se cherche une histoire et des figures populaires pour incarner sa grandeur. les républicains, souvent anticléricaux, ressortent l'histoire presque oubliée de Jeanne d'Arc pour démontrer la puissance et la malfaisance de l'Église. Les historiens comme Jules Michelet transforment Jeanne en héroïne nationale. L'Église n'est pas en reste. Elle fait béatifier Jeanne en 1909, puis elle est canonisée en 1920 et devient peu après l'une des saintes patronnes de la France. Aujourd'hui, elle est l'un des personnages les plus célèbres de notre histoire, revendiquée par tous les partis politiques pour des raisons parfois diamétralement opposées. Mais tous sont d'accord sur au moins une chose, c'est une héroïne courageuse, prête à se sacrifier pour son pays. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt!